pense certains secrets d'importance allaient être dits au tsar. Fantômas, lui, le reçut car, ayant pris sa ressemblance, il remplaçait l'empereur quand Juvelard est à son peur.
Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème, mais si tu croyais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis qu'on est toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine.
La musique inouïe.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon grand néon.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
André Breton, qu'est-ce que le surréalisme ? Pouvez-vous nous en donner une définition ?
Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Tout cela avait commencé quelques années plus tôt, lorsque, à la suite de certaines notations que j'avais pu faire de phrases entendues, soit à l'approche du sommeil, soit au réveil, mon attention s'était portée sur elles et où j'avais été entraîné à les noter et à leur trouver un timbre extrêmement particulier et nouveau. Ces phrases, nous avions projeté alors, c'était en 1919, mon ami Philippe Soupeau et moi, de les provoquer systématiquement par une sorte d'abandon complet de toute espèce de réaction sensible aux choses qui nous entouraient, de manière à isoler autant que possible ces sortes d'interventions mystérieuses qui se produisent au moment où justement l'esprit se maintient tout à fait au repos. Nous avions donc, Soupeau et moi, rempli un certain nombre de cahiers d'écriture non surveillée, en nous interdisant scrupuleusement de nous relire ni d'apprécier en cours de route le produit de cette activité. Contre le rationalisme, d'une part, et contre le positivisme philosophique, d'autre part.
L'attitude réaliste, inspirée du positivisme, de Saint Thomas à Anatole France, m'a bien l'air hostile à tout essor intellectuel et moral. Je l'ai en horreur, car elle est faite de médiocrité, de haine et de plate suffisance. C'est elle qui engendre aujourd'hui ces livres ridicules, ces pièces insultantes. Elle se fortifie sans cesse dans les journaux et fait échec à la science, à l'art, en s'appliquant à flatter l'opinion dans ses goûts les plus bas, la clarté confinant à la sottise, la vie des chiens. L'activité des meilleurs esprits s'en ressent. La loi du moindre effort finit par s'imposer à eux comme aux autres. Une conséquence plaisante de cet état de choses, en littérature, par exemple, est l'abondance des romans. Chacun y va de sa petite observation. Par besoin d'épuration, M. Paul Valéry proposait dernièrement de réunir en anthologie un aussi grand nombre que possible de débuts de romans, de l'insanité desquels il attendait beaucoup. Les auteurs les plus fameux seraient mis à contribution. Une telle idée fait encore honneur à Paul Valéry, qui, naguère à propos des romans, m'assurait qu'en ce qui le concerne, il se refuserait toujours à écrire « La marquise sortie à 5 heures ». Mais a-t-il tenu parole? Oula, j'en suis à la psychologie, sujet sur lequel je n'aurais garde de plaisanter. L'auteur s'en prend à un caractère, et celui-ci étant donné, fait pérégriner son héros à travers le monde. Quoi qu'il arrive, ce héros, dont les actions et les réactions sont admirablement prévues, se doit de ne pas déjouer, tout en ayant l'air de les déjouer, les calculs dont il est l'objet. Les vagues de la vie peuvent paraître l'enlever, le rouler, le faire descendre, il relèvera toujours de ce type humain formé. Simple partie d'échec, dont je me désintéresse fort, l'homme, quel qu'il soit, mettant un médiocre adversaire. Ce que je ne puis supporter, ce sont ces piètres discussions relativement à tel ou tel coup, dès lors qu'il ne s'agit ni de gagner ni de perdre. Et si le jeu n'en vaut pas la chandelle, si la raison objective dessert terriblement, comme c'est le cas, celui qui y fait appel, ne convient-il pas de s'abstraire de ces catégories? La diversité est si ample que tous les tons de voix, tous les marchés, tousser, moucher, éternuer. Pascal, si une grappe n'a pas deux grains pareils, pourquoi voulez-vous que je vous décrive ce grain par l'autre, par tous les autres, que j'en fasse un grain bon à manger? L'intraitable manie qui consiste à ramener l'inconnu au connu, au classable, berce les cerveaux, le désir d'analyse l'emporte sur les sentiments. Les héros de Stendhal tombent sous le coup des appréciations de cet auteur, appréciations plus ou moins heureuses, qui n'ajoutent rien à leur gloire. Où nous les retrouvons vraiment, Zelda Roustadal les a perdus. Nous vivons encore sous le règne de la logique. Mais les procédés logiques de nos jours ne s'appliquent plus qu'à la résolution de problèmes d'intérêt secondaire. Le rationalisme qui reste de mode ne permet de considérer que des faits relevant étroitement de notre expérience. Les fins logiques, par contre, nous échappent. Inutile d'ajouter que l'expérience même s'est vue assigner des limites. Elle tourne dans une cage d'où il est de plus en plus difficile de la faire sortir. Elle s'appuie, elle aussi, sur l'utilité immédiate, et elle est gardée par le bon sens. Sous couleur de civilisation, sous prétexte de progrès, on est parvenu à bannir de l'esprit tout ce qui se peut taxer à tort ou à raison de superstition, de chimère, à proscrire tout mode de recherche de la vérité qui n'est pas conforme à l'usage.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Alors aujourd'hui, on va parler de littérature, mais aussi de peinture, de cinéma, et on va le faire en musique, puisqu'on va célébrer les 100 ans du manifeste du surréalisme de André Breton. Alors on a fait un appel à participation à nos amis musiciens, musiciennes, diseuses de textes, et on a reçu les contributions que vous allez entendre dans cette émission. J'aimerais commencer par dire aussi, par présenter nos excuses pour l'émission de la semaine dernière qui a été interrompue, ce qui n'est pas de notre fait. Moi j'ai écouté ça de chez moi, j'étais un peu consterné. Patricia, qui avait eu la gentillesse d'envoyer l'émission, était partie. On avait tous les deux des choses à faire. Moi, l'émission avec Avalanche Kaito ayant été annulée, j'avais prévu d'autres choses, mais bon, j'écoutais. Et voilà, bon, c'était pas très grave, c'était une émission, une playlist, mais en fait, on l'avait fait, cette playlist, pour pouvoir diffuser à 16h l'émission de Pas de Quartier. Donc on présente nos excuses à l'émission Pas de Quartier, qui n'a pas pu être diffusée, puisque l'émission a été interrompue. On écoutera cette émission aux alentours de 16h aujourd'hui. Alors on a commencé l'émission... on revient au surréalisme, là, on a commencé l'émission avec André Breton. Bah oui, quand même, à tout seigneur, tout honneur, à tout pape, à toute bénédiction urbi et orbi. Pour nous parler du catéchisme, j'allais dire non, pas du tout, du surréalisme et de sa création. Voilà. Donc c'était un extrait audio, c'était important, je pense, d'entendre quand même un petit peu André Breton. Et à l'instant, on vient d'écouter Mozart, qui a mis pour nous en musique un extrait du manifeste du surréalisme de 1924, parce que c'est le premier manifeste, il y en a eu d'autres après, de André Breton. On était contents d'écouter Mozart, ça faisait longtemps, l'ami Mozart, qui n'est toujours pas mort et qui n'a pas utilisé ses flûtes pour le morceau, il a utilisé simplement ses machines, et on attend toujours son second disque, qu'il nous promet depuis plus de 10 ans. Alors... Il s'agit de littérature, bien sûr, mais il y avait aussi le cinéma, les arts plastiques, ça on connaît bien. Il y a eu moins de musique, en fait. La musique n'intéressait pas trop Breton et ses acolytes. Je crois qu'il y a eu un compositeur belge qui se revendiquait du surréalisme, André Souris. Donc j'ai écouté, c'était pas vraiment... Ça m'a pas enthousiasmé, on va dire. Donc on va écouter plutôt la musique de nos amis. Que vous dire, on va écouter un autre extrait du manifeste du surréalisme, toujours comme celui de Mozart. Ça se situe dans les premières pages, dans les 3 ou 4 premières pages de l'ouvrage, qui en compte une trentaine environ, si je me souviens bien, 30 ou 35, je ne sais plus. Et ce deuxième extrait nous a été envoyé par Wobmoff, qui est un artiste amateur du Val-de-Marne, un vidéaste, un youtubeur, aussi présent sur d'autres réseaux sociaux sur lesquels il réalise des entretiens, des interviews assez remarquables. Il s'intéresse particulièrement au cinéma et aux jeux vidéo. Et désormais à la musique, c'est-à-dire qu'il pratique maintenant la musique. On entendra plus tard dans l'émission pour une création plus originale, plus travaillée aussi à base de samples. Voilà, là pour l'instant, Webmouth nous dit un texte figurant parmi les premiers paragraphes du manifeste du surréalisme.
Cette imagination qui n'admettait pas de bornes, on ne lui permet plus de s'exercer que selon les lois d'une utilité arbitraire. Elle est incapable d'assumer longtemps ce rôle inférieur et, aux environs de la 20e année, préfère, en général, abandonner l'homme à son destin sans lumière. Qu'il essaye plus tard, de ci et de là, de se reprendre, ayant senti lui manquer peu à peu toute raison de vivre, incapable qu'il est devenu de se trouver à la hauteur d'une situation exceptionnelle telle que l'amour. Il n'y parviendrait guère. Et qu'il appartient désormais corps et âme à une impérieuse nécessité pratique qu'il ne souffre pas qu'on la perde de vue. Tous ses gestes manqueront d'ampleur, toutes ses idées d'envergure. Il ne se représentera de ce qui lui arrive et peut lui arriver que ce qui relie cet événement à une foule d'événements semblables, événements auxquels il n'a pas pris part, événements manqués. Que dis-je ? Il en jugera par rapport à un de ces événements, plus rassurant dans ses conséquences que les autres. Il n'y verra sous aucun prétexte son salut. Chère imagination, ce que j'aime surtout en toi, c'est que tu ne pardonnes pas. Le seul mot de liberté est tous ceux qui m'exaltent encore. Je le crois propre à entretenir indéfiniment le vieux fanatisme humain. Il répond sans doute à ma seule aspiration légitime. Parmi tant de disgrâces dont nous héritons, il faut bien reconnaître que la plus grande liberté d'esprit nous est laissée. À nous de ne pas en mésuser gravement. Réduire l'imagination à l'esclavage, quand bien même il irait de ce qu'on appelle grossièrement le bonheur, c'est se dérober à tout ce qu'on trouve au fond de soi de justice suprême. La seule imagination me rend compte de ce qui peut être. Et c'est assez pour lever un peu le terrible interdit. Assez aussi pour que je m'abandonne à elle sans crainte de me tromper, comme si l'on pouvait se tromper davantage. Où commence-t-elle à devenir mauvaise et où s'arrête la sécurité de l'esprit ? Pour l'esprit, la possibilité d'errer n'est-elle pas plutôt la contingence du bien ? Reste la folie qu'on enferme, a-t-on si bien dit, celle-là ou l'autre ? Chacun sait en effet que les fous doivent leur internement qu'à un petit nombre d'actes légalement répréhensibles et que, faute de ces actes, leur liberté, ce qu'on voit de leur liberté, ne saurait être en jeu. Qu'ils soient, dans une mesure quelconque, victimes de leur imagination, je suis prêt à l'accorder, en ce sens qu'elle les pousse à l'inobservance de certaines règles, hors desquelles le genre se sent visé, ce que tout homme est payé pour savoir. Mais le profond détachement dont ils témoignent à l'égard de la critique que nous portons sur eux, voire des corrections diverses qui leur sont infligées, permet de supposer qu'ils puisent un grand réconfort dans leur imagination, qu'ils coûtent assez leur délire pour supporter qu'ils ne soient valables que pour eux. Et de fait, les hallucinations, les émotions, etc. ne sont pas une source de jouissance négligeable. La sensualité la plus obtenue trouve sa part, et je sais que j'apprivoiserai bien les soirs cette jolie main qui se livre à de curieux méfaits. Les confidences des fous, je passerai ma vie à les provoquer. Ce sont des gens d'une honnêteté scrupuleuse et dont l'innocence n'a d'égal que la mienne. Il fallut que Colomb partît avec des fous pour découvrir l'Amérique. Et voyez comme cette folie a pris corps et duré.
Alors merci à ces deux artistes énigmatiques, Webmouth et Mother, d'avoir mis en musique le texte fondateur qui nous occupe aujourd'hui, le manifeste du surréalisme d'André Breton. Alors ces deux musiciens ont en commun de faire une musique rythmique et à base de machines, ce qui va être ce qui est loin d'être le cas de toutes les contributions qu'on va écouter aujourd'hui et notamment la prochaine. Il s'agit du Bruno Mazur Orchestra. Alors là, on est est plus dans l'ordre de la performance musicale, de la prise de directe en fait du son. Bruno Mazur Orchestra, et bien c'est Romaric Sobac qui en dit. Il s'agit d'un duo constitué par moi et François Cazot. Le nouveau défi des ovnis. Nous avons tenté un hommage à André Breton, et comme tu le verras, nous avons échoué. Car Breton rime avec poivron et morpion, donc le compte n'est pas bon. Voilà, on diffuse un extrait seulement, hein. J'en suis vraiment désolé, mais on va diffuser le quart de cette œuvre qui dure quand même plus de 40 minutes, que nous a envoyé Romaric Sobac, et on le remercie. On le remercie beaucoup, Romaric, qui participe toujours à nos émissions, à nos appels à contribution. Bruno Mazur Orchestra, hommage à André Breton.
Jamais dans une soirée qui a joué dans sa vie un rôle aussi capital que la nuit de feu pour Pascal ou le poêle des méditations pour Descartes. Donc, avant de m'endormir, je perçus nettement articulé au point qu'il m'était impossible d'y changer un mot, mais distraite cependant du bruit de toute voix, une bizarre phrase qui me parvenait sans porter trace des événements auxquels, de l'aveu de ma conscience, je me trouvais mêlé à cet instant-là, phrase qui me parut insistante, oserais-je dire, qui cognait à la vitre. Thank you. pris conscience plus nettement que jamais dans une soirée qui a joué dans sa vie un rôle aussi capital que la nuit de feu pour Pascal ou le poêle des méditations pour Descartes. Outre quand son caractère organique me retint. En vérité, cette phrase m'étonnait. M'étonner. Je ne l'ai malheureusement pas retenu jusqu'à ce jour. C'était quelque chose comme. Des hommes voués par définition à marcher sur la tête ou bien à la porter à l'envers par rapport à notre hémisphère. Jadis on tenait pour puéril la pensée qu'il put exister aux antipodes des hommes voués par définition à marcher sur la tête ou bien à la porter à l'envers par rapport à notre hémisphère.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, dans laquelle aujourd'hui nous nous penchons sur le surréalisme à l'occasion des 100 ans du manifeste d'André Breton. Nous venons d'écouter Romaric Sobac et François Cazot, c'était le Bruno Mazur Orchestra, hommage à André Breton. Alors, Tyrannic Toy est pluridisciplinaire, art graphique, musique, mais aussi vidéo. On l'a connu mêlant ces deux dernières disciplines sous le nom de Kamikaze, qui fit les beaux jours du festival Le FIR dans les années 2000. Il nous propose un poème d'André Breton intitulé « Guerre », extrait du livre « Poème », édité chez Gallimard. Et il nous précise, c'est très dark et enveloppant, comme d'hab, petit collage maison, quelques samples maison du film Battle Rock, saupoudrés d'une ligne de basse accordée en do, parsemés d'une ligne de gratte, branchée sur une DS1, une OC3 et une DD7 sans ampli. Bravo, bravo, bravo à Tyrannic Toy. On écoute « Guerre » de André Breton.
Guerre. Je regarde la bête pendant qu'elle se lèche, pour mieux se confondre avec tout ce qui l'entoure. Ses yeux couleur de houle, à l'improviste, sont la mare tirant à elle le linge sale et détritus. Celle qui arrête toujours l'homme. La mare, avec sa petite place de l'opéra dans le ventre, car la phosphorescence est la clé des yeux de la bête, qui se lèche et sa langue. Dardée, on ne sait à l'avance jamais vers où. Et un carrefour de fournaise, d'en dessous je contemple son palais, fait de lampes dans des sacs et sous la voûte bleue de roi. D'arceaux dédorés en perspective l'un dans l'autre. Pendant que court le souffle fait de la généralisation à l'infini, de celui de ces misérables, le torse nu qui se produisent sur la place publique avalant des torches à pétrole dans une aigre pluie de sous. Les pustules de la bête resplendissent de ces hécatombes de jeunes gens dont se gorge le nombre. Les flancs protégés par les miroitantes écailles que sont les armées, bombées dont chacune tourne à la perfection sur sa charnière, bien qu'elles dépendent les unes des autres non moins que les coques qui s'insultent à l'aurore du fumier à fumier. On touche un défaut de la conscience, pourtant certains persistent à soutenir que le jour va naître. La porte, j'ai voulu dire la bête, se lèche sous l'aile. Et l'on voit, est-ce de rire se convulser de filou au fond d'une taverne? Ce mirage dont on avait fait la bonté se résonne. C'est un gisement de mercure. Cela pourrait bien se laper d'un seul coup. J'ai cru que la bête se tournait vers moi. J'ai revu la saleté de l'éclair, qu'elle est blanche dans ses membranes, dans le délié de ses bois de bouleau où s'organise le vieux, dans les cordages de ses vaisseaux, à la proue desquels plonge une femme que les fatigues de l'amour ont parlé d'un loup vert. Fausse alerte, la bête garde ses griffes en couronne et rectile autour des seins. J'essaie de ne pas trop chanceler quand elle bouge la queue, qui est à la fois le carrosse biseauté et le cou de fouet, dont l'odeur suffocante de cicindelle, de sa litière souillée de sang noir et d'or vers la lune, elle aiguise une de ses cornes à l'arbre enthousiaste de gris. En se levant, avec ses longueurs effrayantes, flattée. La bête se lèche de sexe. Je n'ai rien dit.
Dernier morceau avec... Alors, on vient d'écouter Tyrannic Toy. C'était le morceau Guerre. Guerre, d'après un poème. C'était un poème d'André Breton. On va écouter un dernier morceau inspiré par André Breton, mais également par Aragon. Deux courts extraits du pamphlet Un cadavre, qui fit grand scandale puisqu'il a été édité à l'occasion du décès d'Anatole France, qui était à l'époque une véritable idole nationale de la littérature et une figure de la gauche modérée. La disparition de sa mort avait donc provoqué un grand émoi. Et bien entendu, les surréalistes ont pris un malin plaisir à littéralement insulter le défunt avec une grande violence, et ce qui aujourd'hui paraîtrait impensable, vraiment. Et les textes sont vraiment super. Si vous avez l'occasion de les lire sur Internet, en intégralité, je pense que ça vaut le coup, notamment le refus d'inhumer Anatole France de André Breton. Alors, les deux extraits proposés ici sont courts et interprétés par Aborch, le duo constitué par Frédéric Loudèche, qui commencera par lire Breton, puis moi-même, qui fera Aragon. Alors, ce texte, je les connais depuis mon adolescence pratiquement, ça me donne l'occasion de vous parler de ça. J'avais trouvé ces extraits dans l'histoire du surréalisme de Maurice Nadeau. Si vous voulez en savoir plus sur le mouvement, c'est vraiment un ouvrage de référence, me semble-t-il. Je ne sais pas s'il est encore trouvable, mais c'est vraiment très bien. L'histoire du surréalisme de Maurice Nadeau. On écoute deux extraits de Un cadavre par Aborch.
Loti, Barès, France, marquons tout de même d'un beau signe blanc l'année qui coucha ces trois sinistres bonhommes, l'idiot, le traître et le policier. Avec France, c'est un peu de la servilité humaine qui s'en va. Que ce soit fait le jour où l'on enterre la ruse, le traditionnalisme, le patriotisme, l'opportunisme, le scepticisme et le manque de cœur. Songeons que les plus vils comédiens de ces temps ont eu Anatole France pour compère et ne lui pardonnons jamais d'avoir paré les couleurs de la Révolution de son inertie souriante. Pour y enfermer son cadavre, qu'on vide, si l'on veut, une boîte des quais de ses vieux livres qu'il aimait tant, et qu'on jette le tout à la Seine. Il ne faut plus que mort cet homme fasse de la poussière.
En France, à ce qu'on dit, tout finit en chanson. Que donc, celui qui vient de crever au cœur de la béatitude générale s'en aille à son tour en fumée. Il reste peu de choses d'un homme. Il est encore révoltant d'imaginer de celui-ci que de toute façon, il a été. Certains jours, j'ai rêvé d'une gomme à effacer l'immondice humaine.
Combien de fois j'ai pensé à ces paroles lors de la disparition d'hommes illustres, politiques, artistes, écrivains, journalistes, et j'y penserai encore longtemps. Hélène Bréchamp est harpiste, est une harpiste à la notoriété méritée et internationale. Elle nous fait l'amitié, depuis que je l'ai rencontrée, de répondre à nos appels à participation. Nous la remercions chaleureusement. Vraiment. Merci Hélène. Je vous lis son texte. Alors, j'ai repris un morceau esquissé à l'occasion d'une performance faite au musée Giacometti en 2023 avec et sous l'égide de Karel Prugnot, qui a transposé le fantôme surréaliste et fait revivre Sheila Leg, je sais pas comment on dit, l'espace d'un instant. Le public portait la reproduction du visage masqué de Sheila Leg, tout le texte de cette pièce musicale et le poème de Sheila Leg. C'est à la fois rendre hommage à une artiste méconnue, un souvenir de cette performance surréaliste de Karel Prugnot et ainsi, dans une sorte de palimpseste, garder vivant ce mouvement artistique toujours d'actualité pour moi et qui ne cesse de me nourrir dans le quotidien. Sheila Leg, 1911-1949, c'est une Anglaise, est une artiste surréaliste, muse, inspiratrice et moteur du mouvement surréaliste. Elle est surtout connue pour sa performance de fantôme surréaliste de 1936 à Trafalgar Square, lors de l'ouverture de l'exposition surréaliste internationale de Londres, dont elle a participé à l'organisation. Dans un costume inspiré d'un tableau de Salvador Dali, la tête complètement cachée par une composition florale, incarnation vivante de ce tableau avec la complicité de celui-ci. Ce portrait avait été esquissé par Man Ray en mars 1936. Le poème surréaliste de Leg, I have done my best for you, paraît dans le numéro de décembre 1936 de Contemporary Poetry and Prose. Hélène Bréchamp dans le miroir renversé de Sheila Leg.
J'ai fait de mon mieux pour vous.
There a place.
J'ai fait de mon mieux pour vous.
A woman.
Et il m'est apparu une femme avec des chaînes au poignet,
riding on a bike,
faisant du vélo,
son bicyclette,
and iron her, et dans sa main, une bannière portant ses mots.
Words.
Il n'y a plus de putain
there
à Babylone.
No.
Regardez, cria-t-elle. Voilà le Queen Mary qui part pour son voyage inaugural.
There is the Queen Mary.
C'est en effet, c'était un spectacle impressionnant, là-bas dans le désert. Ce grand navire
and
construit
indeed,
entièrement du marbre le plus coûteux.
Out there in the desert.
That tall ship built entirely the most costly. Car
marble.
Aucune dépense n'avait été épargnée.
For no expense had been spared.
Setting out on her maiden voyage
with her cargo.
Entreprenant son voyage inaugural avec sa cargaison de bougies et tous ses passagers grimpant la passerelle faite de pointes de Venise et prêtées par le pape avec leurs vêtements et leurs flacons de médicaments soigneusement rangés.
And all her passengers scribing.
Car aucune dépense n'avait été épargnée. Entreprenant son voyage inaugural avec sa cargaison de bougies. Et tous ces passagers grimpant la
passerelle,
avec leurs vêtements, leurs flacons, leurs médicaments soigneusement rangés dans des nids et un sandwich au jambon pour l'étranger. Un petit peu de l'année à l'époque.
A ham sandwich for the journey.
Mais je ne pouvais pas vraiment accorder toute mon attention au spectacle, aussi divertissant qu'il fut, car j'étais déjà en retard alors. Lui disant au revoir, je continuais seule.
For I was already late, so
voyant que j'étais sérieuse,
farewell,
elle a pédalé dans la direction opposée, me laissant dans l'obscurité totale.
I went on alone.
Opposée, me laissant dans l'obscurité totale.
Leaving me in total darkness.
Je continuais seule. J'ai sorti le paquet d'aiguilles
tout
qui ne m'avait jamais quitté depuis que j'ai dit au revoir à ma mère ce matin à la gare de Liverpool Street. Et comme je m'y attendais, la plus grosse aiguille de toutes a donné un
Liverpool Street Station. And as I had expected, the largest needle of all gave out.
Femme surréaliste, éclat phosphorescent suffisant pour projeter un faisceau de lumière sur mon chemin.
Geo surrealist woman.
Vous pouvez imaginer qu'elle projetait pour garder un œil dessus. C'est le soulagement que j'ai ressenti lorsque le soleil s'est levé 6 minutes.
Geo surrealist woman phosphorescent glow.
C'était déterminé il y a longtemps quand je suis arrivée.
Light.
Le mogador avait laissé une note sur la table.
pour dire qu'il le ferait être de retour sur la table. Nemo Banner avait laissé une note sur la table pour dire qu'il serait de retour sous peu. Alors je me suis assise pour attendre. Tea was over long ago when I arrived, but Mogador had left a note on the table to say he would be back shortly, so I sat down to wait. Mais quand les personnages de cirque qui avaient été leur vitrine, parce que c'était la mi-temps, ont commencé à showcase, j'ai réalisé que la maison était en feu et qu'il n'y avait rien de plus. That the house was on fire. And there was nothing to be done. J'ai réalisé que la maison était en feu et qu'il n'y avait rien de plus. Tout le monde montra de grands signes d'agitation et mon calme était grandement envié. Oh mon Dieu, j'aime cette île. Si seulement il y avait une élevation, nous aurions pu nous fabriquer des bateaux et tous les gants pour le chamois du jardin et nous n'aurions eu aucun danger. Oh dear, des moines cependant. Il était grand et fausse à la flotte. Les glaces sur la table, qui étaient les plus indécises de leur chance de survie, qui auraient hissé le drapeau blanc depuis longtemps d'une déterrence sans froid, se sont rapidement recongelés dans des formes encore plus spectaculaires qu'auparavant. Et tout était prêt pour le festin. Des mondes. Tout. C'est-à-dire, sauf moi, car j'étais maintenant plus que fatiguée de ton interruption. Alors, repoussant ma chaise, je me suis allongée par terre. Je me suis endormie. The ice creams on the table who had to be qui étaient les plus indécises quant à leur chance de survie, qui auraient hissé le se sont rapidement recongelés dans des formes encore plus spectaculaires qu'auparavant. C'est-à-dire, sauf moi, car j'étais maintenant plus que fatiguée de mon temps d'interruption. So many interruptions. Alors, repoussant la chaise, je me suis allongée par terre. Je me suis allongée down on the floor and fell asleep. And on the third day, I rose again and sold my wife for 30 pieces. Et le troisième jour, camembert, je me levais de nouveau et vendis ma femme 30 pièces de camembert et ma petite fille 3 francs 50.
Entendez-vous dans la plaine ce vent venant jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne se traînant sur les cailloux. C'est le grand lustre qui passe et qui repasse, emportant dans sa besace ma petite fille qui ne dort pas, qui ne dort pas.
Bravo et merci à Hélène Bréchon. Bravo, dont on vient d'entendre la contribution à cette émission sur le surréalisme. Ça s'appelait « Dans le miroir renversé » de Sheila Legge. Alors, l'ami Grégoire Bressac a animé notre émission durant quelques temps, il y a quelques années, avant de déménager en grande banlieue. Et j'étais très content d'avoir de ses nouvelles à l'occasion de l'émission, de cette émission d'aujourd'hui. D'autant plus qu'il a fait l'excellent choix d'interpréter un texte du grand René Crevel. Grégoire nous dit... C'est un extrait de La mort difficile de René Crevel, 1926, un passage que je trouve assez fascinant et caractéristique du style de Crevel. J'aime beaucoup l'auteur, là c'est une espèce de lettre du père d'un des héros qui est interné et appelé à l'aide. Et appelle à l'aide, à sa manière. La folie du père le hantera, et servira de prétexte à sa mère pour l'empêcher de s'émanciper. C'est un très beau roman et Crevel, un de mes surréalistes officiels préférés. On écoute... Ali Crevel par Grégoire Bressac.
À Madame de Pompadour, en dépit du temps et de l'espace. Madame, je vous salue. n'allez pas croire que vous envoie un simple petit bonjour de cette maison, un corps aux yeux crevés, dont pourtant il faut que je sois l'âme. Je suis prisonnier à Ratapolopolis, madame. La persécution commença dès Saint-Cyr, où mes camarades me baptisèrent Ratapoil. Elle se continue aujourd'hui, et colonel et inventeur, je suis condamné à pourrir dans une grande bâtisse. Je vous le répète, marquise, un corps aux yeux crevés, dont pourtant il faut que je sois l'âme. Madame la marquise de Pompadour, si un colonel de la Troisième République s'adresse à vous, soyez bien persuadé qu'il n'ignore point à quel fâcheux commentaire va prêter cette correspondance. Le colonel Dumont écrit à la Pompadour, je vois d'ici la tête des francs-maçons, de ma femme, du ministre, des amirons et de tous les officiers de toute la marine française. Les uns et les autres vont, à leur habitude, arrêter de ma folie, comme ils m'ont arrêté de le faire depuis le jour où, en Algérie, j'ai trouvé le moyen de supprimer les vaisseaux de guerre en attachant aux roues de canon des feuilles de palmier qui faisaient une nageoire. Ainsi, chaque pièce d'artillerie pouvait facilement, sans frais, devenir poisson mitrailleur. Le poisson mitrailleur. Parce que mon invention déplaisait aux ministres, aux amiraux, aux officiers qu'elle rendait désormais inutiles après avoir fait alliance avec ma femme, ils m'ont enfermé à Ratapolopolis avec les fous. Et là, parmi les monstres de l'esprit et du cœur, je demeure le seul à posséder ma raison, mon génie d'inventeur. Un vieux dur à cuire, comme moi, ne sait pas, madame, composer des bleuettes. Je n'irai donc point par quatre chemins. Si j'implore votre bon cœur, c'est que
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, radio-libertaire.net. C'est l'émission Les Oreilles Libres consacrée aujourd'hui aux 100 ans du manifeste du surréalisme d'André Breton. On vient d'écouter l'ami Grégoire Bressac. Bravo, bravo, à bientôt l'ami. Frédéric Loudèche a tenu à nous faire découvrir le Benjamin du groupe historique des surréalistes, Jacques Baron, surnommé par ses pairs le Rimbaud du surréalisme. Alors Fred a lu deux textes extraits de L'Allure poétique, poème entre 1924 et 1973. Le premier intitulé Le voleur sera mis en musique par Gérard Pilanu, multi-instrumentiste que nous avons entendu à plusieurs reprises dans l'émission, notamment à l'occasion des concerts du Nouvel An. qu'on fait en début d'année de toutes les années depuis 15 ans à peu près, puisque Gérard jouait de la clarinette dans l'ensemble Citrouille qu'on avait invité à l'époque. Le second texte de Jacques Baron s'intitule L'Idiot et il sera mis en musique par Aborch, dont on a déjà parlé, les deux bien sûr avec la voix de Frédéric Loudèche.
J'attends l'heure du compte. L'appui sur les vitres attise le phare aux joues des jeunes femmes blondes. Dans la rue, nulle étincelle surgira entre les pierres de soufre. Un traître très humain dispose des machines infernales. Belle machine, couleur du temps. Le passé est mort depuis longtemps dans ma tête. Il n'y a plus de vagues ni de remous autour de mon front depuis longtemps. Pourtant les mains si blanches tendues vers moi, les belles caresses des Amazones, du soupir du matin à l'horreur du soir. C'est pour tout dire, la peau de mon rêve étendue sur la mousse, jeu des ombres et des maléfices. Les sonnettes de l'aube vibrent sur un lac de nickel où se reflètent des myriades et des myriades de poussières humaines sanglantes. Je serre dans ma paume un peu de cette poussière qui est celle de mon âme et j'en fais des statues vides de sens que l'on réduira vite en air de liberté. Néant, néant, jolie parfumeuse, donne-moi un baiser. Voyage sur un air de flûte ou sur un air de mort. Des routes du soleil, alcool, végétal et infernal. Un os me brise le crâne. Mon ombre est un falot près d'une guérite de douanier où on assiste à la naissance d'une hache. À l'endroit même où le billot qui servit à couper la tête de Dieu fut précipité dans les flots. Ce matin, je ne me suis pas levé d'un bon œil. L'âge est apparu près de mon lit en criant « Vengeance ! Vengeance !» Alors, j'ai compris jusqu'à quel point le prix du sang avait un sens précis. L'idiot. Minuit, à coups de vent, démolissait le mur. Ma rage déchirée, le lourd vide en moi-même. Le temps, l'être anonyme, a fait trembler mes mains. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Ces doux, ces bons amis. Nulle part je n'aime, nulle part. Je l'ai détruit, ces bâtisses en moi-même, des bons rats, mes amis. Un seul cher regard, un sourire par ici, la famine du cœur a dépeuplé ma vie. Vieux bonheur hardieux, roulant des yeux de soupe, de la soupe du ciel, au relent et grand doux. Mes doux, mes bons amis, par là-bas, par ici, où donc vous cachez-vous ? Réponse. Oh, la verte jeunesse ! Va-t'en ! Va-t'en ! Va-t'en !
Voilà, c'était Frédéric Loudèche dans deux interprétations de textes de Jacques Baron, le Benjamin du surréalisme, à l'instant par le duo Aborch et précédemment par Gérard Pilanu. Mathias Dufil est guitariste, on le connaît bien ici puisqu'il a la gentillesse de répondre régulièrement à nos appels à participation. Il a également été présent au festival Les Oreilles Libres en 2019 avec le duo Stromoki en compagnie de Romaric Sobac. Il a un solo également en donation, un label de musique auto-produite Conscience Boy et il joue également avec Delphine Dora et Cathy Hayden dans la formation qui s'appelle Simone Poussière. Merci à lui de nous faire écouter, de nous permettre d'écouter le poème Antipode de Philippe Soupeau, créateur quand même du mouvement surréaliste aux côtés d'André Breton, que celui-ci évoquait du reste en début d'émission. Antipode par Mathias Dufil.
Le souffle d'une pensée fait tourner la map-monde illuminée. Dakar, Santiago, Melbourne. Abandonner ses chaînes. Un désir balaie les pensées mortes. Il reste encore un peu de feu dans la cheminée. Un sourire dans sa mémoire. Java. Ce même vent ferme les livres. Assourdi sans silence. Il neige et le soleil troue le carreau. Une tendresse oubliée meuble la chambre close. Tanan arrive. La valise et la montre, 18h39. Le cri des locomotives déchire le tumulte. On a toujours derrière soi une ombre qui s'attarde. Nagasaki. Un coup de sifflet est un bref adieu. En quittant le port, on songe aux rendez-vous inutiles. On voit la terre qui s'en va. On regarde l'horizon qui fuit. San Francisco.
San Francisco. San Francisco.
J'aurais bien dû tout de même faire sauter la maison. J'aurais bien dû tout de même faire sauter la maison.
J'aurais bien dû tout de même faire sauter la maison.
Bravo à Mathias Dufil pour son travail sur l'interprétation de Antipode de Philippe Soupeau. Et alors maintenant, ça va être dur de passer derrière. Et c'est à mon tour de vous proposer... hein, j'aurais pas dû, hein. Là, je suis con, j'aurais dû me placer mieux. Hein. Bonjour Patricia.
T'es... Bonjour.
Bon, on va t'écouter dans quelques instants, mais là pour l'instant, c'est à mon tour de vous présenter ma contribution personnelle à cette émission. J'ai choisi un extrait du Traité du style de Louis Aragon. Alors, il s'agit de la fin du livre, publié en 1928. Le texte qui, par bien des points, marque son adhésion au surréalisme est aussi une mise en cause de la vulgarisation possible du surréalisme vers la mode et le conformisme. Je cite, « Si vous écrivez suivant une méthode surréaliste de tristes imbécilités, ce sont de tristes imbécilités. » C'est le début de sa rupture avec Breton et le surréalisme pour un engagement plus militant. Moi-même, j'étais très jeune, au même titre que le pamphlet, un cadavre sur un Alto de France dont je parlais tout à l'heure, j'ai été séduit par le propos antimilitariste. À l'époque j'étais objecteur de conscience aussi, faut bien préciser, propos antimilitariste de celui qui n'était pas encore le stalinien qui est devenu par la suite. Je vous propose d'écouter la fin du traité de style de Louis Aragon. Ah, j'ai oublié de caler le morceau, tu vois.
Poète, prends ton luth. Oui, mais ta gueule. Qu'en lisant ton journal du matin, tu trouves à la fin cette sottise et cette saloperie intolérable. Quand tu as l'extraordinaire culot de te sentir touché, si l'on condamne quelque part à des 30, des 10 ans de prison des gens qui ont simplement protesté contre les périodes militaires ou la guerre du Maroc et qui ont, paraît-il, engagé les réservistes à la désobéissance. Eh bien... inutile de prendre aucun détour si l'envie me vient de dire ce que j'en pense. Je tiens pour un immonde abus ce droit que le gouvernement et la justice s'arrogent en France de nos jours d'interdire à ceux qui détestent l'armée le droit d'exprimer par écrit, avec les commentaires qu'il leur plaisent, le dégoût qu'ils ont d'une institution révoltante contre laquelle toute entreprise est humainement légitime, tout attentat recommandable. Et c'est par la contrainte physique que ces républicains répondent à l'écriture. J'appartiens à, dit-on, la classe 1917. Je dis ici, et peut-être ai-je l'ambition, et certainement j'ai l'ambition de provoquer par ces paroles une émulation violente chez ceux que l'on appelle sous les drapeaux. Je dis ici que je ne porterai plus jamais l'uniforme français. La livrée qu'on m'a jeté il y a 11 ans sur les épaules, je ne serai plus le larbin des officiers. Je refuse de saluer ces brutes et leurs insignes, leurs chapeaux tricolores. Il paraît que le nommé Painlevé, ministre de la guerre, a signé l'autre jour un décret monstrueux. N'importe quel officier ou sous-officier, n'importe quel crétin payé pour marcher au pas, a désormais le droit de m'arrêter dans la rue. Ce n'était pas assez des agents, et comme eux, ils sont désormais assermentés. Ils ont ces matières fécales, une parole qui fait loi. Ah, l'agriculture ne manquera plus de vaches. Eh bien, puisque les regarder de travers dans la rue vaut de coucher au violon, j'ai bien l'honneur, chez moi,
dans ce livre à cette place de dire que, très consciemment, je conchis l'armée française dans sa totalité.
Voilà qui est dit. Alors, nous allons écouter dans quelques instants Patricia Favreau en direct du studio de Radio Libertaire. Mais avant, il nous reste à écouter plusieurs envois qui nous ont été adressés pour cette émission participative, je rappelle, autour du surréalisme, de textes qui ne sont pas écrits par des surréalistes historiques, officiels, comme dit Grégoire. Le premier des morceaux est celui de Wobmouth, dont on a parlé tout à l'heure, et qui est un collage. Alors là, pour le coup, c'est quand même une forme chère aux surréalistes. On pense à Max Ernst, par exemple. Et on reconnaîtra diverses sources sonores, parmi lesquelles André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard et Jean Marais.
À ceux qui, comme lui, s'offrent le magnifique plaisir de se faire oublier, je vous aime, Jean.
Il y a des impôts, ça passe mal, toujours mal. Allez, faut sortir le portefeuille. Vous le voyez, le gouvernement, grâce aux taxes, aux impôts, nous construit des ponts et fait des écoles.
Maintenant, Dieu merci, je ne suis plus un jeune homme. C'est une maladie qui passe assez rapidement.
Et moi, ça me ferait mal qu'un mec décide de me plomber le cul pendant que je fais du rameur.
De ma vie, il francile, de l'armadou, de l'hydradou, à certains discours de serre, ou moi, c'est ce que je veux dire.
Je vous respecte, vous me trouvez bien laid.
Et je vous aime, Jean.
Les impôts sont les fonds de chaque gouvernement pour introduire leur économie et régler leurs dépenses.
C'était sûr.
Cette division par genre, comme conséquence d'une volonté bien définie, m'a paru d'emblée ultra rétrograde.
Dans la solitude nue, tu es marre de la mort, écrit ton nom.
Vie est en demi-temps, au milieu du ghetto, des monstres tout autour en pleine nuit avec des bouquins de physique quantique.
Jean, je vous aime, Jean.
Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom.
Ou je dis pardon à la petite Tiffany.
Certes, la beauté qui sonnerait n'est plus la nôtre. Déjà, à l'époque où je me place, elle commençait à faire l'impression d'une femme voilée en train de se perdre dans le lointain.
Elle, elle vient foutre la merde.
C'était sûr!
Ceci devrait suffire à leur valoir encore aujourd'hui un coup de chapeau, mais nous n'en portons plus.
Voilà, c'était Wobmouth. Je sais pas si je le dis bien. Manifesto. On va écouter maintenant une pièce d'Ada surréaliste pour deux voix écrite par Christine Chalère et Patrice Cazel. Alors, on les a reçus tous les deux à diverses reprises. Christine, à l'occasion d'une émission sur les toboggans poétiques. Patrice, plusieurs fois, pour nous parler des ouvrages qu'il publie, de son café poétique à Fontenay-sous-Bois ou de son trio, Le Mur du Fond avec Jacques Pochat et le regretté Francis Larvor. On écoute Arnaud Dalphard Pitouk de Christine Chalère et Patrice Cazel.
Arnaud Dalphard, Pitouk, Astourna, Moulnix, Sigismé, Toubé. N'ai-je savions pas qu'elle tu fusses Ardolpé de la Surte, et que tu le pythagoricien, que Talmour indufidablement l'adournait. N'est-ce
pas? Oh, pour un détour, que Stalifadre ouvrait. T'as dû scalifier mes gousses au rabais. Oh, épaulé du daro qui navère. J'en sourte pas mieux glandé.
Nargue, note d'estampillé que tu fusses brouftalement ségor, mire d'allemand, jour froid, dès que te blasse ma sudalfire. Quel te barre?
Les fourtes, ma gleuse, les fourtes, qui stortent du col à monter du grain. Oui, moi, y a fort à feindre de cet incurie, des tarés mal taris du gland. Oh, n'est-ce pas qu'est sur la jatre, dis-tu, quel te barre, hein? Est-ce qu'en tour j'ai mis sur toi?
Quel toubar Annick Potigar, Archefal Dix Cicatrix. Master Lement, t'as-tu ben schnorr naflé, lasbure, d'ourton que n'avait jamais mis le pied?
Bon, ça pète l'hyperpote, naguère souffa d'un mot l'agir. Bah, rétinant du zob à polir des poires. J'en connus pas plus cocu qu'aucune. Tourni coquette, tour conicu. Vache d'Alsplaire au fond du fion.
Ah, Sigoré mal armé, Sawabila, fola, folé, folé, folé.
Fallo, fallo, goré, goré. Bah, et c'est un mal si je débonde quand t'abondes. Hein? Quand ton plein est à mon vite, je plains mon vide en toi. Forcément, nature liche, une lichette.
Un duc? Ça me recommande vite chantier. L'image, grimage, t'as vu le marache.
Oh, chut, tu me distors l'articule. Quoi, dis-tu? Quoi, j'en soubiaffe d'insapience. T'es dur avec le mammifère.
Mammifère, mammifère, est-ce que j'ai une gueule d'amifère? Hey, mammifère la main, brodeur. Et si tu que maribattes, mais si tu le battes, tu le battes, tu lubutusement, elle sort dans le flat. Ça, t'es sûr de salber ton broche d'affalbi, falboufalbé.
Bon, qu'est-ce t'as d'Esther, mon hibernaction? Je la chauffe au poêle d'antan, ma soutirante. J'ai point le gaz à l'étage, hein, à mon âge. Faut que je tire du bas pour chauffer de la haute. T'es ben saute, toué.
T'es bien la saute, t'as tour la botte, t'arnis la quitte du duc à ta floc. Floboc. Faftal Bougoc, Borkot, Blackat, Lohot, Bereglot, Ensoclosof. Dercage, soulage et larigon, larigondaine.
Oh, ce qu'on s'immole en ineptie quand même, hein. Dire qu'au Dakaté, je pâtisse d'Elfort en gong, sans farte, tout chousse, blindé du képi. Oh, ô tercipiant la vinderlate, versisson d'air au gel baltique, la Saint-Idouane. Bah! En dolorie de la crêpe et tout mon fion des pu. Hein? Telle joie la joie. Ok?
Coca. Mette qu'à sauce la pagos, isto chenellement. Et massiche pousse ta mule à fond du cul. Car pour cela dit qu'on voudrait boire la mer, valdra mieux se brocher le plus tard et de jastriculer l'arvilèche l'ordiche. Qu'à force d'applouti par-ci, plouti par-là, on se n'a plus d'astricher du retard.
Bon. S'baucher le plus d'or. Bah, fouta qu'un méridil qu'à des ostres. Moi, il y a beau temps que je pouvais souir à marée basse sans me basser du croupion, va. Comme quel d'air du vent ni derrière. À la éjectaculus omnipothèque. Sécula méridipor, dixit, dixit. Sous tes airs de lanternage. Lâche, dites. Ouf, comme tes mères, ma nouvelle ère du retard fort clément.
Yar covir d'argulé de la surte. C'est ta bouche dire en flatubé, et de sauce ploumir qu'à viortard. Pousse ta claque, grosse vire. Pousse ta.
Ah, don't touch me, tu m'en feras les costres. C'est bernéfique quand même. Ah, ouf, ouchtec. Pouh, ça c'est le tanin du gendre. Ben, dis donc, pas du céfio le matin, hein? Passe pas sans pénitence, celui-là. Tantrite.
Glavitch.
Bournac est folle, la stoupira dans le bourg. Savoir qu'est peu non, bien, va.
Ornac, Nicobac. Si tu le vois, comac, on te claque.
Bah, vache tardi, même, je m'en gratte les soins.
A blabla car, Nicolmar, tripote.
Ose que tout la venir la stupre. À se conspuer du ventricule, zourchlotte, zourchlotte. À waton ouer de la warguette. Hein? Bon.
War la qui vire dur, l'en mec. Si je t'ai d'Elsgard et si je tire ta qui, salon thermal. On se croit vrai, tire blutché par dessus, sur le tutu.
Ah, sondage à la rimorimel, bon, tous barres dans le pathos, tous barres dans le pathos. J'ai la fait costance ou quoi? Purdin, purdin.
Voilà, c'était Christine Schaller et Patrice Cazel, Arnaud Dalfar, Pitouk. Blandine Sel joue et met en scène et pratique la performance avant de se consacrer depuis 2009 à l'écriture poétique. Elle nous a envoyé plusieurs pistes, mais à vrai dire, j'ai pas forcément vu le rapport avec le thème de notre émission. Mais je vous propose d'en écouter une piste, un morceau qui s'intitule, je crois qu'il s'intitule Crever. Alors attends, il faut juste que je le cale. Voilà.
C'est ainsi, c'est ici qu'elle doit creuser. C'est ainsi, c'est ici qu'elle doit crever. L'abcès du déjà dit. Déjà dit. C'est ainsi, c'est ici qu'elle doit creuser. C'est ainsi, c'est ici qu'elle doit crever. L'abcès du déjà dit.
Al a plusieurs fins dans le sac, entend son souffle sans se reconnaître, écarlate la carcasse en pied de biche, caquette du bulbe, prend ses os pour des flûtes, envoie son air en l'air désarticulé.
C'est ainsi, c'est ici qu'elle doit creuser. C'est ainsi, c'est ici qu'elle doit crever. L'abcès du déjà dit. Déjà dit.
La poule assaisonne la rime, sa langue en cul de bouche articule l'incompromission. C'est pas tante Al qui parle, mais parle, joue de sa langue, escoule tous les jours de ses reins, c'est rien, c'est tant pis, pire que le pire.
C'est ainsi, c'est ici qu'elle doit creuser. C'est ainsi, c'est ici qu'elle doit crever. L'abcès du déjà dit.
Déjà dit. C'est tant pis, pire que le pire. c'est tant mieux qu'Al du pis se gave, que Dal le pis se grave. C'est tant mieux si ces mots l'insufflent, fait partition, car si n'importe quoi, la Al n'est pas n'importe qui.
C'est ainsi, c'est ici qu'elle doit creuser. C'est ainsi, c'est ici qu'elle doit crever. L'abcès du déjà dit, déjà dit,
déjà dit, déjà dit,
déjà dit,
déjà dit, déjà dit, déjà dit, déjà dit.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Libre, qui va bien, les oreilles libres aujourd'hui, mais c'est vrai, les oreilles libres qui va bientôt s'achever. À la suite de notre émission, je rappelle que nous diffuserons une émission de nos camarades de Pas de Quartier. Mais pour l'heure, on va écouter Patricia Favreau. Alors Patricia, qu'est-ce que tu as choisi de nous lire ?
Alors, j'ai choisi de lire un texte de Annie Lebrun, qui est surtout connue pour son travail sur le Marquis de Sade, d'une part, pour ce livre polémique qui s'intitule « Vagide propre » et pour ses ouvrages qui critiquent la mercantilisation de l'art. Et là, en fait, Annie Lebrun, elle a un rapport avec le surréalisme. En effet, on la surnomme la dernière surréaliste ou bien même la voix posthume du surréalisme, car elle a rencontré André Breton. Enfin, elle a fait plus que le rencontrer. Hein, à la mort de celui-ci, vers la mort de celui-ci, elle a commencé, en 1966, elle a commencé à écrire ses propres poèmes. Je vais lire l'extrait d'un texte issu du recueil Ombre pour Ombre. Cet extrait de poème est issu de Sur le champ. Il réaffirme les recherches, enfin le travail des surréalistes, si l'on peut dire, en ce sens que il exprime l'absence de contrôle et l'absence de contrôle sur la raison et l'absence de préoccupation morale. Donc je vais lire, donc comme je l'ai dit, un extrait de Sur le champ, poème en 12 cernes. Donc 12 textes, 12 cernes, cernes, C-E-R-N-E-S, comme les cernes. Mmh. Pourquoi ? Parce que comme l'écrit Annie Lebrun, mes cernes n'ont pas fini de s'agrandir. C'est avec les yeux que je dévore le noir du monde. Donc je vais lire un extrait de 8e cerne. De la grisaille des monuments de l'infime grand siècle qui pèse encore sur nous, un matin surgit un jeune lion, puissant et tranquille, dont la force centrifuge de sa crinière. Je perçus les mouvements de son approche comme des battements de sang dans le brouillard. Cependant, mes yeux étaient déjà atteint d'une maladie blanche qui obscurcissait tout ce qui venait à moi. Le lion et ses muscles, luisants, je crois, sous le pelage, n'en tinrent pas compte. Je leur en sus gré. Avec l'intention de me mesurer à lui, dans des limites autres que celles de la petite guerre et de ses armistices sentimentaux, il m'entraîna sur les rings les plus réputés. Nous apparaissions, insolents et nus, avec des gants de boxe en peau blanche. Notre complicité était celle que la violence des coups n'était pas ce qui comptait, mais les traces que laissaient sur le corps de l'autre nos gants préalablement enduits de poudre d'Occident. Perdait évidemment le plus immaculé de nous deux. Tous nos combats furent rituels. Il n'y eut jamais de vainqueur. Et il n'y eut jamais de vainqueur. Et il n'y eut jamais de vainqueur. Et il n'y eut jamais de vainqueur. Ne voyant plus, je cherchais des signes plus simples pour me repérer, pour continuer d'avancer sans trop trébucher. Pour cela, il m'aida, tout naturellement, m'apprit à reconnaître à l'odeur, à deviner les mouvements de son désir au seul remous des parfums. Avec l'impudence, il me fit remarquer et la petitesse et la mollesse de mes lèvres et insista sur l'agrément d'un baiser de dents, au fond duquel, il est vrai, on découvrait parfois une nouvelle douceur des langues. Mordez votre ironie, elle vient encore trop tôt. Je n'avais jamais été si loin. Je n'avais jamais été si loin des mascarades de la violence du samedi soir, de leur confusion qui permet de se vautrer dans la fraternisation du relâchement. Je n'avais jamais été si loin. Je n'avais jamais été si loin de l'avenir érotique assuré par le fouet hebdomadaire. Je n'avais jamais été si loin. Je n'avais jamais été si loin. Je n'avais jamais été si loin du sadisme climatisé, de ces déchirures sur mesure, automatiquement remboursées par la sécurité sociale. Quand le lion voulut retourner vers sa jungle, je lui souris. Aujourd'hui encore, il est impensable que j'eusse seulement pu rugir à l'idée de son départ. À l'aide des alphabets qu'il me laissait, je déchiffrais que l'unique violence était ailleurs, dans l'électricité des cheveux, autour du phosphore des semelles. Alors, impatiente, assoiffée, je prenais le premier taxi venu, lui ordonnant une course folle et, pour une seule fois, bien parce que je n'avais rien dans les mains ni dans les poches, menaçant de fouetter si l'on ne me conduisait pas sans attendre à la vitesse nécessaire, mais jamais suffisante, au point d'intersection de mon désir, de mon désir, de mon désir, de mon désir avec le monde.
Bravo, bravo Patricia, et merci pour cette interprétation d'un texte de Annie Lebrun. Bravo. Bah, écoute, on va terminer l'émission avec un morceau que j'ai reçu ce matin, In Extremis, vraiment. C'est une contribution qui me fait bien plaisir, de Dominique Clore et à la guitare et à la voix, et à Marie au trombone. Je ne me souviens plus du nom de Marie, excusez-moi les amis. Donc je les avais connus tous les deux au Festival Météo de Mulhouse, et on va terminer grâce à eux avec Antonin Artaud. Alors voilà, on se quitte. La semaine prochaine, l'émission sera consacrée au festival Brigade Rouge Poésie Noire et nous recevrons Andrés Komatsu pour nous en parler. Après Dominique Clore et Marie, après Antonin Artaud, on écoute l'émission qui aurait dû être diffusée la semaine dernière des amis de Pat Cartier, je crois qu'il est question d'Israël. Allez, bah salut Patricia, à bientôt.
Au revoir.
Allez, à bientôt, à la semaine prochaine.
À bientôt.
Salut.
Seul usage auquel puissent servir désormais
Le langage. Un moyen de folie. L'illumination de la pensée. Des raisons. Et non pas un dictionnaire ou tel cuistre des environs de la Seine canalise